Salut, as-tu 2 minutes de libre? Bon lundi tout le monde, en ce 16 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Pierre-Luc Daou au micro pour ce 7e épisode de As-tu 2 minutes de libre? Le balado qui explore en quelques minutes l'actualité récente de l'univers Linux et logiciel libre. Le survol d'aujourd'hui va couvrir une plus longue période puisque notre dernier rendez-vous remonte au début décembre et qu'il y a eu pas mal d'activités depuis. Au menu aujourd'hui, les sorties des distributions Linux Mint 21.1, Manjaro 22, Open Mandriva ROM 23.01 et Calculate 23, et la fin de Fedora 35. OBS Studio en version 29, l'interface graphique XFCE 4.18, GNOME 43.2, KDE Framework et KDE Connect, un nouveau de chez System 76, Darktable 4.2, le jeu Hogwarts Legacy qui sera vérifié pour Steam Deck, et finalement l'agenda du libre. C'est parti! Plusieurs distributions Linux ont reçu une mise à jour importante. On va commencer avec Linux Mint qui arrive sur les tablettes en version 21.1 nommée Vera. Elle est disponible en téléchargement avec les interfaces graphiques Cinnamon.6, XFCE 4.16 ou Mate 1.26. Sous le capot, la distribution verte est basée sur Ubuntu 22.04 qui est supportée à long terme et repose sur la version 5.15 du noyau Linux qui est aussi une version supportée à long terme. Parlant de vert, il est un peu moins au cœur de la distribution alors qu'un nouveau thème Aqua fait son apparition. On remarque aussi le retrait par défaut des icônes du bureau pour l'ordinateur et le dossier utilisateur Home. Lors de l'installation de logiciels, les utilisatrices et utilisateurs pourront profiter d'une intégration complète des formats Flatpak et d'une meilleure gestion des clés de signature des dépôts PPA. Le gestionnaire de pilotes a été revu, notamment en permettant de purger les paramètres des pilotes supprimés. On peut aussi maintenant le démarrer sans le mot de passe administrateur. On peut se rendre sur le site de Linux Mint pour télécharger l'installateur ou mettre à niveau directement depuis la version 21. Les sources pour cette nouvelle, 9to5 Linux, It's Foss News et Gaming on Linux. La distribution Manjaro Linux montre d'un chiffre elle aussi et passe à la version 22, nommée Sicaris. Contrairement à Mint, Manjaro est une distribution de type Rolling Release. Je ne sais pas s'il y a un mot officiel en français pour ça, là. C'est-à-dire que vous avez les mises à jour en continu. Manjaro 22 emmène avec elle les versions à jour des différents environnements de bureau comme GNOME 43, KDE 5.26 et XFCE 4.18. Elle apporte aussi la toute dernière version du noyau, c'est-à-dire 6.1, des arrière-plans dynamiques et plusieurs améliorations. Le panneau de configuration a été revu afin d'inclure tous les modules de gestion du système à un seul endroit. Le support des futurs processeurs Intel de 14e génération, baptisé Meteor Lake, est introduit avec Manjaro 22. Le support des puces ARM SoC pour System on a Chip est amélioré. En plus de GNOME, KDE et XFCE, des éditions communautaires de Manjaro permettent d'installer le système avec les interfaces graphiques Cinnamon, Mate et Bougie. Pour mettre à jour vers Manjaro 22, vous avez seulement à mettre à jour votre système normalement. Comme je disais, c'est une distribution Rolling Release, donc simplement en mettant à jour votre système, vous vous retrouvez avec le même système qu'en installant 2.0. La source pour cette nouvelle, It's Foss News. Open Mandriva embarque elle aussi dans l'aventure Rolling Release avec sa nouvelle variante Open Mandriva ROM, dont la version 23.01 sera sa toute première avec mise à jour en continu. Open Mandriva, vous l'avez deviné avec son nom, c'est lié à Feu Mandriva, la distribution qui a été abandonnée en 2015 et cédée au développement communautaire. Tout comme Manjaro, Open Mandriva ROM vient avec les mises à jour les plus récentes de pas mal toutes, donc je répéterai pas la majeure partie. Côté KDE, l'interface et les logiciels de graphisme ont été modifiés pour supporter le nouveau format JPEG XL. Pour le noyau, c'est avec la version 6.1.1 que le départ sera donné. Les navigateurs Chromium et Falcon seront présents par défaut, tout comme le logiciel d'édition vidéo Kdenlive en version 22.12. Côté GNOME, aucune modification n'est apportée. Vous avez le droit à un GNOME 43 tout à fait vanille. C'est Firefox qui vous accompagnera par défaut sur vos sites de pas pire nouvelles du jour. Et vous retrouverez notamment GIMP et Inkscape préinstallés. La distribution est seulement disponible avec les interfaces graphiques GNOME et KDE. Mais je présume que les autres interfaces seront téléchargeables. Après l'installation, un mot de bienvenue et de première configuration vous attendra. Rendez-vous sur le site de OpenMandriva pour l'essayer. Les sources pour cette nouvelle, debug.news et Linuxiac. Une autre distribution monte d'un échelon. Il s'agit de Calculate Linux qui passe en version 23. Celle-là, je vous avoue, je ne la connaissais pas du tout avant de faire l'épisode de podcast. Elle est basée sur Gentoo et elle aussi est en rolling release. Mais contrairement à Manjaro ou OpenMandriva Rum, on voit qu'elle est un petit peu plus conservatrice. Par exemple, vous allez la retrouver à télécharger avec les interfaces KDE, mais en version 5.25.5 plutôt que la plus récente 5.26. XFCE va être à la plus récente 4.18, Cinnamon 5.6, Mate 1.26 et LXQT 1.2. Le serveur graphique est XORG plutôt que Wayland qui est en train de s'implanter partout. Côté noyau aussi, on est un peu plus conservateur et on s'en tient à la version supportée à long terme 5.15 au lieu d'aller tout de suite vers la version 6. On voit donc qu'on n'est pas dans la même philosophie que les autres distributions Rolling Release où ce que le système doit être à jour coûte que coûte. Pour l'essayer, direction le site web de Calculate Linux. La source pour cette nouvelle, 9to5 Linux. Parlons maintenant de Fedora. Non, pas de nouvelle version majeure. Après tout, Fedora 37 vient juste de sortir quasiment. Mais l'équipe a annoncé la fin du support de Fedora 35 conformément à l'agenda habituel de la distribution qui supporte une version jusqu'à deux versions et deux mois plus tard. Si vous utilisez Fedora 35, c'est l'heure de mettre à niveau. La source pour cette nouvelle, Fedora FR. OBS Studio, le logiciel d'enregistrement et de diffusion streaming, est rendu en version 29.0, 4 mois seulement après la version 28.0. Sur Linux, on ne sera pas tant gâté que ça cette fois-ci. Mais du côté de Windows, les utilisatrices et utilisateurs d'OBS obtiennent l'encodage par la carte graphique avec les cartes AMD de série RX 7000 et avec les cartes Intel ARC. Les encodeurs HEVC et ProRes natifs font leur apparition, en incluant le DeskView pour Mac. De nouveaux filtres font leur entrée, notamment un nouveau compresseur et un égalisateur. L'extension WebSocket, intégrée à OBS depuis la version 28, passe en version 5.1. WebSocket, c'est l'extension qui permet le contrôle d'OBS par des requêtes web que de nombreux bots et panneaux de contrôle utilisent. Sur Linux, le support des touches multimédia du clavier est maintenant chose faite. Sur Windows, l'utilisation d'une source périphérique de capture vidéo emmène automatiquement la capture de l'audio. La liste complète des corrections de bugs et améliorations est disponible sur le site d'OBS. Mais avant de mettre à jour, vérifiez que toutes les extensions que vous utilisez ont été déclarées compatibles avec OBS 29. D'ici là, attendez. La grosse vague de colère dans la Twitchosphère québécoise lors d'OBS 28, c'était essentiellement ça. Des extensions indépendantes qui n'ont pas suivi, puis le monde blâmait OBS. Alors cette fois-ci, soyez prudents. Sur Linux, en plus d'un téléchargement sur le site, le logiciel est disponible en Flatpak et sur un dépôt PPA pour Ubuntu, Mint et PopOS. Puisque j'utilise OBS régulièrement, j'ai bien hâte de le mettre à jour et de voir ce que la version 29 nous apporte. Les sources pour cette nouvelle, Gaming on Linux, Ubuntu Handbook, 9to5 Linux et It's Fast News. Et avant de passer à la nouvelle suivante, un message de l'équipe d'OBS Studio qui nous a avisé aujourd'hui de faire attention parce qu'un site web clandestin se fait passer pour le site web d'OBS Studio et vous amène à télécharger une version piratée et malicieuse d'OBS. Pour vous aider à tomber dans le panneau, les gens qui maintiennent le site pirate achètent des mots-clics sur Google pour sortir dans les résultats de recherche. Alors assurez-vous d'avoir la bonne adresse web sur le site web d'OBS quand vous allez le télécharger ou allez chercher directement sur le GitHub d'OBS. Soyez prudent parce que ça pourrait avoir des conséquences sinon. Le 15 décembre dernier, l'interface graphique XFCE en version 4.18 a vu le jour. XFCE, c'est une interface plus légère que GNOME et KDE, mais qui reste dans le groupe des grosses interfaces. C'est son explorateur de fichiers, Tunar, qui a le plus gros morceau du gâteau des améliorations. L'explorateur peut maintenant être scindé en deux volets indépendants. En vue liste, il est maintenant possible d'afficher le nombre d'éléments contenus dans un dossier. On peut aussi maintenant mettre un fond de couleur pour chacun des éléments, que ce soit des fichiers ou des dossiers, pour les faire ressortir. Un ajout qui n'a rien de spectaculaire, mais que toutes et tous apprécieront, CTRL-Z! On peut maintenant annuler les mouvements de fichiers. Aussi, la recherche de fichiers devient récursive. Un nouvel éditeur de raccourci clavier fait son apparition. Nommé XFCE Shortcut Editor, il permettra aux gens de modifier facilement les raccourcis clavier des utilitaires XFCE. Pour le moment, par contre, il fonctionne avec peu d'applications, mais d'autres s'ajouteront. Les outils date et heure ainsi que horloge fusionnent dans le tableau de bord. Une attention a été accordée aussi au jumelage entre types de fichiers et applications par défaut. L'outil permettant de changer les paramètres là-dessus a été amélioré. Allez voir sur le site de votre distribution Linux pour savoir quand elle adoptera XFCE 4.18. Du côté des distributions Rolling Release, ça semble s'installer un peu partout. Chez Ubuntu et PopOS, ça semble être pour la prochaine version. Mint, ça ira probablement après avril 2024. Les sources pour cette nouvelle, Numetopia et LinuxYak. L'interface graphique GNOME a aussi droit à une petite mise à jour avant sa prochaine version majeure. La voici en version 43.2. Les améliorations se feront voir au niveau du redimensionnement des fenêtres, de leur accrochage, des captures d'écran, de la capture vidéo ainsi que de l'éclairage de nuit. Le support du serveur graphique Wayland est amélioré, notamment au niveau des fenêtres à grandeur fixe qu'on met en plein écran. L'application de gestion du Bluetooth a été améliorée pour corriger des problèmes de pairage avec certains claviers. Et enfin, le navigateur de fichiers Nautilus a eu droit à une amélioration de performance et à de corrections de bugs. La prochaine mise à jour mineure viendra ce mois-ci, en janvier, puis le 22 mars prochain, la version 44 de GNOME devrait voir le jour. La source pour cette nouvelle, 9to5 Linux. L'infrastructure logicielle KDE Framework est sortie en version 5.102 samedi. D'habitude, j'aborde pas des nouvelles sur des affaires aussi pointues, mais ça a un impact sur une application très pratique, j'ai nommé KDE Connect. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, KDE Connect permet de relier facilement des ordinateurs Linux ensemble pour se transférer des fichiers notamment, mais aussi d'interagir entre téléphone Android et ordinateur Linux. En plus des transferts de fichiers, ça permet le contrôle de la lecture audio-vidéo, les notifications et plein de trucs. Pour moi, c'est rendu un essentiel. Bref, les changements apportés à KDE Framework en incluent un qui permet maintenant le transfert des fichiers de plus de 2 GB via KDE Connect. C'est vraiment juste pour ça que je voulais vous en parler. Le reste, on verra à la sortie du prochain KDE. La source pour cette nouvelle, 9to5 Linux. Vous envisagez un nouvel ordinateur portable? Il y a System76 qui nous fait miroiter un petit bijou dans leur gamme Pangolin et tout en AMD. Processeur Ryzen 7 6800U, 2.7 GHz, 8 cœurs, 16 threads, carte vidéo Radeon 680M, moniteur de 144 Hz avec résolution de 1920x1080, 32 GB de mémoire DDR5, 2 emplacements pour disque dur SSD M2 NVMe jusqu'à 16 Teraoctets de capacité, interrupteur physique pour couper la webcam, pas seulement un petit clapet qui cache la vue, là, vraiment un interrupteur. Je m'étalerai pas trop là-dessus, surtout qu'à un prix annoncé de 1300$ américains, je veux pas imaginer la facture avec transport et douane pour livrer au Québec, mais si vous avez un surplus de salive à écouler, un tour sur le site de System76 en vaut la peine. Le logiciel d'édition de photos Darktable est maintenant en version 4.2 depuis le 21 décembre. Cette mise à jour majeure apporte évidemment le support de nombreux appareils photos, et pas seulement des récents. Dans la liste publiée sur le site de Darktable, j'ai reconnu des vieux modèles de chez Nikon, comme je pense le D3S par exemple. Darktable supporte désormais le format JPEG Excel en lecture et écriture. Le format WebP est supporté en lecture et les profils ICC intégrés au fichier WebP sont maintenant possibles lors de l'exportation. Le format JFIF aussi trouve désormais sa place chez Darktable. S'ajoute un nouveau module sigmoïde et de nombreux algorithmes de reconstruction des hautes lumières. Puis on note des améliorations dans la gestion des photos dupliquées et dans la correction des perspectives. Le module Snapshot a aussi été complètement revu. La liste complète des changements est disponible sur le site de Darktable. Notez que sur Linux, on peut aussi l'installer via Flatpak pour avoir facilement la dernière version. La source pour cette nouvelle, 9to5 Linux. Une bonne nouvelle pour les fans de l'univers d'Harry Potter. Warner Brothers a dit sur Twitter que le jeu Hogwarts Legacy sera vérifié pour le Steam Deck au moment de sa sortie. ce qui signifie que sa prise en charge à travers la couche de compatibilité Proton sera bonne. Le jeu reste énorme, on parle de 85 gigaoctets et énormément d'exigences matérielles pour le faire rouler. Je serais donc pas surpris qu'il faille ne pas être trop gourmand en termes de qualité d'image pour en profiter à travers Proton. La sortie du jeu sur Windows, PlayStation 5 et Xbox Series X est prévue pour février, puis plus tard dans l'année pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. La source de cette nouvelle, Gaming on Linux. À l'agenda du libre pour les plus ou moins deux prochaines semaines, le mardi 7 février, ce sera le Linux Meetup qui aura lieu à l'École de technologie supérieure, l'ETS, près de la station de métro Bonaventure dès 19h. L'événement sera aussi diffusé en virtuel. N'hésitez pas à suivre le site web de l'Agenda du Libre au agendadulibre.qc.ca. Si vous avez des événements à proposer qui n'y apparaissent pas, écrivez-moi, j'en parlerai avec plaisir. Voilà qui conclut l'épisode 7 d'As-tu 2 minutes de libre. N'oubliez pas d'ajouter le balado dans votre application favorite si ce n'est pas déjà fait. Il est facile à trouver sur Podcast Addict, Spotify et Podbean notamment. Retrouvez-moi sur le web, sur les réseaux sociaux et sur Discord en visitant le site zonepl.net/balado. Sur ce, mon nom est Pierre-Luc Daou et je vous dis à dans deux semaines!